RFI Radio France Internationale, il est 21h ici à Paris, 23h à Istanbul, 20h en temps universel.
Victor Missistrano.
À la une de ce journal, cette manifestation de grande ampleur en Turquie, des centaines de milliers de personnes se sont mobilisées aujourd'hui à Istanbul pour dénoncer l'incarcération du maire de la ville et principal opposant au pouvoir, Ekrem İmamoğlu. Reportage à suivre de nos envoyés spéciaux. Nous ferons le point sur la situation en Birmanie. Le bilan s'alourdit après le violent séisme qui a touché hier vendredi le pays. Les derniers chiffres font état de plus de 1644 morts et 3408 blessés. Sur place, l'aide aux victimes continue de s'organiser. Et puis une journée de mobilisation anti-Tesla ce samedi. Le constructeur automobile, propriété du milliardaire Elon Musk, à Paris, une quinzaine de personnes se sont rassemblées pour contester son influence aux États-Unis et dans le monde. Direction donc la Turquie pour débuter cette édition. Une vaste mobilisation aujourd'hui à Istanbul à l'appel du principal parti d'opposition, le CHP d'Ekrem İmamoğlu, incarcéré pour corruption. Plusieurs centaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans un parc de la ville. Les manifestants demandent la libération du maire d'Istanbul et ils dénoncent la dérive autoritaire du président Recep Tayyip Erdogan. Sur place, le reportage de nos envoyés spéciaux Bertrand Eclair et Daniel Valo.
Le droit, la loi, la justice, voilà ce que réclament inlassablement les partisans du maire d'Istanbul. Drapeau turc sur les épaules, deux traits rouges et blancs sur les joues, Ergül est venu pour défendre Ekrem İmamoğlu.
Il n'est pas corrompu et ses accusations, c'est évidemment n'importe quoi. La vérité, c'est que le pouvoir a peur de lui. Si İmamoğlu pouvait se présenter aux élections, il l'emporterait largement.
Dans la foule, on prend fait et cause pour le maire d'Istanbul et l'on s'inquiète de la dérive autoritaire du président turc Recep Tayyip Erdogan.
Ce n'est que le début. Il ne peut pas y avoir de justice dans un pays gouverné par un seul homme. J'ai peur que la Turquie ne devienne une dictature. Et je n'ai pas peur pour moi, mais surtout pour mes enfants.
Pour les manifestants anti-Erdogan, la question se pose à présent de la suite à donner à leur mouvement. Car il sera difficile de maintenir la mobilisation alors que vont débuter ce dimanche les congés de la fin du Ramadan. Bertrand Eclair, Daniel Valo, Istanbul RFI.
En Birmanie, le bilan s'alourdit à plus de 1644 morts et 3408 blessés. Après le violent séisme d'une magnitude de 7,7 qui a touché le pays hier vendredi, ce tremblement de terre peu profond, ce qui a augmenté son impact, a été suivi quelques minutes plus tard par une réplique. Au centre du territoire, la région de Mandalay, proche de l'épicentre, est la plus touchée. Les dégâts sont considérables. Les secours se démènent pour tenter de retrouver des survivants. Et dans le même temps, Pierre-Olivier, l'aide internationale s'organise.
Fait rarissime, le chef de la junte appelle tout pays et toute organisation à apporter son secours à la Birmanie, d'habitude extrêmement fermée. De son côté, l'opposition armée annonce cesser ses actions de résistance pendant les deux prochaines semaines dans les zones les plus touchées. Car pour les secouristes, la tâche s'annonce immense. Des centaines de personnes seraient coincées sous les décombres. L'étendue du désastre est encore difficile à évaluer. L'aéroport de Mandalay, la deuxième ville du pays, n'est plus en état de fonctionner. Et c'est par la route sur 700 km que les secours devront accéder aux zones les plus impactées. Pour l'instant, la Chine dit avoir envoyé 82 sauveteurs. L'Inde a pour sa part affrété un avion vers Rangoon avec du matériel de premier secours. La Corée du Sud, la Malaisie, les États-Unis et l'Organisation mondiale de la santé ont également annoncé leur aide. Un peu partout dans le monde, des équipes de sauveteurs se tiennent prêtes à intervenir, mais pour l'instant, les formalités de visa semblent freiner leur arrivée.
Précision signée Pierre-Olivier, j'ajoute que l'Union européenne a de son côté annoncé une aide de 2,5 millions d'euros. Par ailleurs, toujours à propos de la situation en Birmanie, les Nations unies s'inquiètent d'une grave pénurie de fournitures médicales dans le pays, ce qui perturbe la réponse à cette catastrophe. En Guinée, Moussa Dadis Camara gracié pour raison de santé par le chef de la junte au pouvoir, Mamadi Doumbouya. L'ancien dirigeant guinéen est bien sorti hier soir de la maison centrale de Conakry, information confirmée par son avocat. Près de 3 ans après son placement en détention, juste après l'ouverture du procès du massacre du 28 septembre 2009, affaire dans laquelle Moussa Dadis Camara a été condamné à 20 ans de prison ferme pour crime contre l'humanité. Il n'est pas encore apparu publiquement. Cette décision surprise a été accueillie dans la joie et le soulagement par ses partisans et avec consternation par l'opposition et une partie de la société civile. Le Hamas dit accepter une nouvelle proposition de trêve avec Israël. Dans une allocution télévisée prononcée à l'occasion de l'Aïd al-Fitr qui marque la fin du Ramadan, Khalil al-Aya, haut responsable du mouvement islamiste palestinien, affirme que celui-ci a approuvé une proposition de cessez-le-feu à Gaza, proposition à l'initiative de l'Égypte et du Qatar. Israël ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Le cabinet de sécurité se réunit ce soir. Plus tôt dans la journée, la branche armée du Hamas a diffusé une nouvelle vidéo d'un otage israélien à Gaza. Il s'agit du deuxième enregistrement de ce type envoyé en moins d'une semaine. Sur les 251 otages enlevés le 7 octobre 2020, 58 sont toujours retenus à Gaza, dont 34 morts selon l'armée israélienne. Par ailleurs, au Liban, le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, vient de demander, je cite, la fin des agressions d'Israël au lendemain d'une frappe sur la banlieue sud de Beyrouth pour la première fois depuis l'entrée en vigueur de la trêve. En novembre, une ressortissante américaine libérée par les talibans en Afghanistan, Faye Hall, fait partie des plus de 3000 prisonniers remis en liberté aujourd'hui par le régime afghan à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, qui sera célébré demain. Un rare geste de clémence de l'insurrection islamiste afghane, qui garde une main très ferme sur son système carcéral, un système fondé sur des procédures judiciaires opaques et dénoncé par la communauté internationale. Vincent Souriau.
Les talibans estiment qu'ils n'ont rien à se reprocher. Leur discours n'a pas changé depuis leur premier règne à la fin des années 90. Nous prononçons les décisions de justice conformément aux principes islamiques. La population afghane n'y est pas hostile. Les enquêtes de terrain montrent que les juges talibans ont plutôt bonne réputation. Ils ne sont pas aussi corrompus que les magistrats de l'ancien gouvernement. Mais depuis son retour au pouvoir en 2021, l'insurrection islamiste enferme de plus en plus de dissidents, de journalistes ou de civils accusés d'infractions religieuses. La peine de mort a été rétablie et les organisations internationales dénoncent des procès bâclés ainsi que l'absence totale de contrôle indépendant sur les conditions de détention. On ignore le nombre exact de prisonniers détenus dans les pénitenciers afghans, mais d'après l'ONU, les arrestations massives et les très longues peines de prison exercent une pression insoutenable sur le système carcéral.
Explication de Vincent Souriau du service international d'RFI. Au Pakistan voisin, au moins 11 personnes dont 2 femmes et 3 enfants sont mortes dans des frappes de drones de l'armée ce samedi matin. Celles-ci visaient des talibans qui avaient tué la veille 7 militaires pakistanais. Cela s'est produit dans l'ouest du pays, frontalier de l'Afghanistan, région où les violences explosent depuis quelques mois. Aux États-Unis, des centaines de personnes ont manifesté devant les concessionnaires Tesla en cette journée mondiale de mobilisation contre le constructeur automobile et son propriétaire Elon Musk. Cela s'inscrit dans le mouvement Tesla Takedown, démantelons Tesla en anglais, lancé depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux. À Paris, des manifestants, pour la plupart américains et beaucoup moins nombreux, se sont rassemblés devant un concessionnaire Place de la Madeleine. Ils protestent contre la politique menée par le milliardaire libertarien au sein du gouvernement Trump. Reportage Grégoire Motte.
Ils ne sont qu'une quinzaine de manifestants devant le concessionnaire Tesla. Comme la plupart d'entre eux, Jim est citoyen américain. Et s'il est là aujourd'hui, c'est pour dénoncer la politique d'Elon Musk.
Je pense qu'on est tous là parce qu'on réalise la gravité de la situation. On a affaire à un milliardaire très corrompu, qui a plein de conflits d'intérêts, qui est en train, sans mandat, sans élection, de démanteler d'état de service de l'État fédéral américain au détriment de citoyens américains et bien au-delà.
Même si la manifestation du jour ne soulève pas les foules, les mouvements anti-Tesla portent déjà leurs fruits, selon Lorraine.
Le boycott de Tesla est très efficace. Les achats ont plongé partout dans le monde. Ça veut dire qu'on doit continuer à mettre la pression sur Musk.
Les chiffres le confirment. Depuis janvier, la valeur boursière de Tesla a chuté de 40%. Un succès que relativise Suzanne. Cette retraitée vit entre la Californie et Paris. Pour elle, il y a urgence à agir.
Dans 2 ans, il y aura les élections de mi-mandat. Mais je ne pense pas qu'on puisse attendre jusque-là. Les dégâts seront déjà irréversibles.
Après seulement 2 mois d'administration Trump, ce sont déjà des pans entiers de l'État américain qui sont en train de disparaître.
Et puis un résultat de football pour terminer, la victoire, très large victoire du Paris Saint-Germain, 6-1 à Saint-Étienne. Les Parisiens filent tout droit vers un nouveau titre de champion de France.